Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Tout autre chose, après le Tché, on va parler du grand débat, le grand débat national, avec une première restitution qui a été effectuée hier par le Premier ministre Édouard Philippe et des commentaires, vos commentaires, Loïc Blondiot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1, on vous doit notamment un livre que vous avez coécrit avec Christophe Traini, La démocratie des émotions. Qu'avez-vous entendu hier dans cette restitution ?
Alors, ce que j'ai entendu m'a frustré parce que, en fait, la restitution des différents dispositifs qui avaient été mobilisés pour ce grand débat était d'une très grande richesse, d'une très grande complexité d'analyse, et que le Premier ministre finalement n'en retire que deux éléments principaux, à savoir la baisse des dépenses publiques et la limitation de la vitesse à 80 km/h, m'apparaît complètement frustrant et un peu dénaturé ce qu'a été l'exercice. Pourquoi ? Parce que dire que les Français refusent la dépense publique, c'est se fonder sur une des questions fermées du grand débat, qui était sur la plateforme numérique et qui demandait tout simplement aux citoyens, pour réduire les déficits publics, faut-il soit baisser les dépenses publiques, soit augmenter les impôts. Il n'est pas du tout étonnant que 75% des Français aient répondu réduire les dépenses publiques. Donc il me semble qu'il y a un abus là et que, à force de confondre finalement ce grand débat avec un sondage et de privilégier finalement des questions fermées qui ont eu lieu sur la plateforme, qui sont effectivement des questions de sondage, je pense qu'on se trompe d'exercice. Et inversement, dire que le RIC n'a pas été présent, c'est là aussi tout à fait excessif. Si l'on avait posé une question sur le RIC, on aurait pu effectivement dire les Français ne veulent pas le RIC si on leur avait proposé. Mmh. Simplement, il y a quand même 17% des contributions libres qui ont évoqué le RIC, ce qui est beaucoup plus que toute autre mesure. Donc je suis vraiment frustré, voire même un peu en colère, qu'il y ait une telle simplification. On sait que dans les mécanismes de démocratie participative, les dirigeants font des coups de sélectives, c'est-à-dire qu'ils ne retiennent que ceux avec quoi ils sont déjà d'accord. Mais à ce point, là, ça pose vraiment problème.
Et oui, parce qu'en fait, c'est évidemment de cela dont est soupçonné aujourd'hui le gouvernement. Alors, pas dans toute la presse. Le Figaro applaudit dès demain à l'idée donc de voir la fiscalité diminuer. Dans d'autres titres, par exemple dans l'Humanité, on évoque finalement une manière de vérifier ce qu'on voulait faire, comme si le gouvernement avait utilisé ce grand débat pour corroborer une politique qu'il avait de toute façon l'intention de mener. C'est ce que vous êtes en train de dire, Loïc
Blondiot ? C'est exactement ce que je suis en train de dire. Et plus spécifiquement encore, il me semble qu'il ressort de cet ensemble. Et vraiment, alors on n'a pas fini de les interpréter. Là, effectivement, c'était un tour de force de vouloir en donner une signification définitive au bout de quelques semaines d'interprétation. Mais il ressort des demandes de démocratie, réellement, très 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 fortes, auxquelles il faudra répondre, une demande de justice sociale. Je pense que sur la fiscalité, la question de la justice fiscale est aussi et au moins importante dans ce que l'on a obtenu au travers de ce débat que la question de la baisse des dépenses publiques. Or, finalement, il n'a pas été du tout fait mention de cette question de la justice fiscale dans le discours du Premier ministre.
À cela, Loïc Blondiot, les détracteurs de la justice fiscale, ce que vous évoquez comme étant la justice fiscale, disent finalement la justice fiscale, c'est faire payer aux autres des impôts.
Oui, en l'occurrence, là, il y avait très clairement à la fois, alors, un autre élément que j'ai regretté, c'est qu'effectivement, on a complètement occulté les gilets jaunes dans ce débat. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu de grand débat s'il n'y avait pas eu les gilets jaunes. Et ça renforce l'idée selon laquelle ce grand débat avait justement pour intention de faire oublier les gilets jaunes. Mais vous avez raison de dire que y a une ambivalence fondamentale des citoyens par rapport à la fiscalité. Il y a un désir concurrent de plus de services publics qui s'est beaucoup exprimé aussi dans ce débat. Mais aussi un désir de baisse d'impôts, et qui a été portée, me semble-t-il, aussi par des contributeurs, notamment dans les réunions d'initiatives locales, dont on a extrait finalement ces demandes, qui avaient une sociologie très particulière.
C'est-à-dire,
ce que nous a appris,
on a pu le calculer, le mesurer.
Voilà. Ce que l'on sait, parce que l'Observatoire des débats auquel je fais partie a commencé à collecter des questionnaires sur les participants aux réunions d'information locales. Ce sont quand même des participants qui sont beaucoup plus âgés que le reste de la population et que les gilets jaunes, beaucoup plus diplômés, appartenant aux catégories qui vont bien, de la société, et ce sont eux qui ont porté un certain nombre de préoccupations, et il me semble que ce sont eux qui ont porté plus spécifiquement cette question de la baisse de la fiscalité, mais qui finit d'un certain point de vue par faire oublier tout le reste, et tout le reste est absolument incroyable. Et puis un dernier regret pour ma part, c'est qu'hier on n'ait pas donné plus de place à un outil spécifique qui était les conférences citoyennes régionales. Il y a eu 21 conférences citoyennes régionales tirées au sort. Là on a eu des citoyens qui n'avaient pas a priori de parti pris. Des gens qui étaient plus diversifiés sociologiquement que le reste de ceux qui sont intervenus. Et ces citoyens, ils ont produit 230 propositions. Dans ces 230 propositions, il n'y en avait qu'une qui demandait la baisse de la fiscalité. Hein, c'est-à-dire 230 propositions sur les quatre grands thèmes. Or, il y avait des demandes très nombreuses de restriction du train de vie des élus. Ça, c'est une obsession. Aujourd'hui, il est devenu complètement, pour les Français, absolument insupportable que le train de vie des élus soit à ce point élevé. Il y avait des demandes qui portaient sur les équipements de proximité. Il y avait des demandes qui portaient sur l'encouragement à un certain nombre de mesures écologiques. Et de tout ça, on n'a pas du tout entendu parler. Et c'est quand même très décevant d'avoir mobilisé autant d'argent, autant d'ingénierie participative, parce que ces conférences citoyennes sont critiquables, mais elles ont produit finalement un type d'expression politique qui n'est pas négligeable, et tout ça pour ça, j'ai envie de dire, c'est un vrai souci.
Bon, mais alors d'un côté, ce monsieur Édouard Philippe, que vous avez entendu hier, Loïc Blondiaux, ça n'est pas un sociologue, ça n'est pas un politiste, il fait de la politique. Et donc, la déclaration qu'il a faite hier, eh ben, une déclaration de politique. Est-ce que ça n'est pas finalement un peu normal qu'il s'empare de ce grand débat pour servir ses desseins, en quelque sorte?
Oui, c'est logique, mais vraiment le risque. Si on l'évalue à la hauteur du moment politique dans lequel on se trouve. Il y a vraiment eu une crise avec les Gilets jaunes qui est absolument indéniable. Le pouvoir a tremblé, la demande de changement a été réelle. Le grand débat est intervenu comme une des réponses possibles, comme une forme de plan B pour la démocratie représentative, afin que celle-ci puisse se relégitimer au regard de l'opinion. Si on passe à côté, si on en fait une instrumentalisation aussi caricatural que ce que j'ai entendu hier, là, le risque de déception chez les citoyens va être majeur. Et moi, qui m'intéresse à ces possibilités d'innovation démocratique, j'ai peur que ce soit la possibilité même de transformer le fonctionnement des démocraties représentatives afin qu'elles fassent plus de place à la participation qui soit désormais complètement invalidée.
Et alors, justement, c'est ça qui est étonnant, Loïc Blondiaux, c'est qu'il y avait dans le discours du Premier ministre hier une forme de représentation de la France, comme si celle-ci était clivée. Il y a une bonne France, celle qui a participé au grand débat, et puis une autre France dont on peut deviner en quelque sorte la silhouette. Vous avez entendu ce discours de la même façon?
Tout à fait, tout à fait. C'est bien une arme qui s'est révélée d'une certaine efficacité, qui est mobilisée par le gouvernement pour disqualifier finalement le mouvement des Gilets jaunes. On oppose une démocratie pacifique, une démocratie bienveillante, et on a beaucoup insisté sur le fait que les débats s'étaient passés dans une atmosphère relativement cordiale, à une démocratie violente, expressive, éruptive, protestataire. Là, on est dans un jeu politique, mais on est aussi, me semble-t-il, dans un conflit entre deux approches de la démocratie. Parce qu'il ne viendra à l'idée de personne de considérer que les Gilets jaunes, ce n'est pas aussi la démocratie. C'est ce que Pierre Rosanvallon appelait la contre-démocratie, c'est la démocratie sauvage, c'est une forme de démocratie qui doit être prise en compte. Mais l'effacer à ce point me paraît extrêmement problématique. Alors on va voir l'effet que ça va produire sur les Gilets jaunes eux-mêmes. Est-ce que ça va contribuer finalement à les renforcer dans leur hostilité et leur désir de se faire entendre? Alors, un autre point qui est intéressant dans ce débat, c'est que finalement, on va pouvoir confronter différents formats de participation. Parce qu'à côté de la plateforme officielle, il y avait le vrai débat. Et le vrai débat était pris en charge par les Gilets jaunes. Et il proposait beaucoup plus de délibération finalement indépendant que la plateforme officielle. On va pouvoir opposer finalement des contributions qui ont été produites sur Facebook. Là, il y a des projets d'assemblées citoyennes qui sont portés par le mouvement des Gilets jaunes. Il y a une concurrence finalement des approches de la démocratie qui me paraît absolument passionnante.
Et du coup, comment on pourra faire in fine ? Parce que l'idée de ce grand débat était d'apaiser la colère, de faire en sorte que ceux qui manifestent ne manifestent plus. On voit qu'ils continuent à manifester. Alors, il y a une guerre des chiffres, évidemment. Et d'ailleurs, hier, elle était très présente, cette guerre des chiffres, puisqu'on insistait sur le million de personnes qui avaient participé au grand débat. Sous-entendu, il y en a moins aujourd'hui dans les rues. Comment les choses pourraient se dérouler désormais, Loïc Blondiaux ?
Je pense qu'il va falloir abandonner les catégories avec lesquelles on fonctionnait d'habitude. C'est-à-dire qu'on fonctionnait avec une idée de la représentativité qui est calquée sur les sondages. Et effectivement, quand vous avez un sondage, on a pris l'habitude de dire que ce que pense l'échantillon qui est sondé, c'est ce que pensent les Français. Là, il est beaucoup moins facile, et même, j'allais dire impossible, d'inférer ce que pensent les Français de ce corpus de contributions qui exprime l'imagination, les demandes de catégories de Français assez disparates, mais qui ne sont pas en aucun cas représentatives de l'ensemble des Français. On a insisté à juste titre sur le fait que les jeunes n'étaient pas là, ou en tout cas, ils étaient beaucoup moins présents que dans la population, que les quartiers populaires n'étaient pas là. Donc on ne peut plus parler de représentativité. Il faut renoncer à cette idée de représentativité. Et la pire des choses serait de confondre le grand débat avec un sondage. Et ça a été rappelé par l'une des garantes hier, mais j'en suis à ce point convaincu. Or, les logiques ordinaires du débat politique font qu'on a tout de suite fait parler les Français, on a tout de suite calqué l'interprétation sur celle d'un sondage. Et ça, c'est un péché méthodologique manifeste.
Là, pour le coup, vous allez avoir de vrais problèmes, parce que depuis le début de la crise des Gilets jaunes, à tort ou à raison, ce qui compte, c'est la part de voix médiatique. Ouais. Et d'ailleurs, hier, on le voyait dans les commentaires, il y avait le discours du Premier ministre et la réponse d'un gilet jaune, avec évidemment l'ambiguïté d'un mouvement qui n'a pas de représentation officielle. C'est d'ailleurs l'un des problèmes qui se pose. Comment on fait dans ces cas-là, Loïc Blondiaux, vous qui êtes politiste ?
Ouais, mais si on poussait le jeu jusqu'au bout, alors faudrait-il reconnaître que dans les sondages, par exemple, le RIC remporte 77% d'opinion positive. Le rétablissement de l'ISF obtient des chiffres semblables. Pourquoi dans un cas, on s'appuie sur une approche qui est de type sondagien et dans l'autre, on l'abandonne en disant finalement, bon voilà, il n'y a que quelques pourcents qui l'ont exprimé spontanément. Là, je trouve qu'il y a un jeu un peu biaisé, me semble-t-il, très clairement, si on adopte cette approche purement sondagière, statistique, à ce moment-là, il faudrait reconnaître que l'opinion publique est très favorable à beaucoup des mesures qui ont été défendues par les Gilets jaunes.
Et alors, dans ces conditions, est-ce que ça n'est pas anormal qu'un, ou plutôt est-ce qu'il ne serait pas préférable qu'un parti politique se saisisse de ça ? Parce que finalement, c'est aussi une manière parfaite d'entériner des mesures. Pourquoi n'y a-t-il pas un parti politique qui prenne en charge le programme des Gilets jaunes, le RIC, l'ISF,
Ah oui, ils le font très très clairement. Bon, c'est vrai que la question qui est posée aujourd'hui, c'est la question du débouché politique du mouvement des Gilets jaunes et ce qui se profile finalement dans notre démocratie, c'est une opposition. Alors, on fait référence souvent au clivage progressiste souverainiste, mais il y a un autre clivage qui est en train de se mettre en place et qui est très délétère, me semble-t-il, pour la démocratie. D'une part, vous avez un gouvernement qui se revendique d'une forme d'expertise, de scientificité, de vérité qui paraît indiscutable. Et de l'autre, vous avez des citoyens mobilisés à travers le mouvement des Gilets jaunes qui se revendiquent d'un peuple qui lui-même est aussi infaillible. Et dans l'intervalle, on considère que l'organisation du clivage, la canalisation des intérêts, elle n'a plus besoin d'être. Or, les partis politiques sont absolument indispensables au fonctionnement de notre démocratie. Les partis politiques sont ceux qui portent les intérêts de la société, mais c'est ceux qui empêchent que la confrontation d'intérêts et le conflit débouchent sur la violence, parce qu'ils les canalisent, parce qu'ils socialisent la population. Et aujourd'hui, l'affaiblissement historique des partis politiques met en danger la démocratie représentative. Vous avez peuple d'un côté contre élite d'un côté, qui les uns et les autres récusent tous les corps intermédiaires, toutes les formes de médiation, toutes les formes d'organisation. Et là, on va vers un choc qui est mortel pour nos démocraties.
Est-ce qu'on a déjà connu ce genre de situation ? Parce que, effectivement, en écoutant cette restitution hier, je me disais que l'exaspération fiscale, alors, elle semble exister chez certains, d'autres ont des analyses strictement inverses, voire même, ce serait quand même assez paradoxal que ce grand débat aboutisse à des conclusions qui soient diamétralement opposées à ce que voulaient les Gilets jaunes. Mais si pareille chose arrivait, qu'est-ce qui pourrait se passer, Loïc Blondiaux ?
Alors là, je ne peux pas anticiper, effectivement, ce que sera l'effet. Alors, il faut attendre, je pense, ce que va dire Emmanuel Macron, parce que je pense que là, on distille, finalement, des réponses.
Oui, mais avec des commentateurs qui disent, ce matin, finalement, il y a le point de vue de Philippe qui est plutôt marqué à droite, et il y a également d'autres sensibilités à La République En Marche.
Ça, c'est une hypothèse, me semble-t-il. Mais si le grand débat reconduit, voire même légitime, et renforce la politique néolibérale que contestaient les Gilets jaunes, là, le sentiment d'avoir été trahi est trahi au nom même de la démocratie. Parce que la force du grand débat, et c'est une force indéniable, c'est d'avoir dit on va répondre à un mouvement citoyen par plus de démocratie, on va mettre en place des espaces. Mais si, finalement, on y répond de cette façon-là, ça fait effectivement vraiment souci.
Mais d'un côté, dans les représentations, vous qui travaillez sur les sondages, Loïc Blondiaux, j'ai sous les yeux un sondage qui compare la situation en Israël et en France, puisque, comme vous l'avez entendu, il y a des élections actuellement en Israël. Et il s'agit de mesurer la perception de la corruption. 70% des Français considèrent qu'ils vivent dans un pays corrompu, 62% des Israéliens, alors que la classe politique israélienne, à commencer par le Premier ministre, a beaucoup de problèmes de corruption, et un ancien Premier ministre a fait de la prison pour des faits de corruption. Donc on voit bien que... En tout cas, vu de ce que l'on connaît, la corruption est plus forte en Israël. Comment expliquer ce type de représentations qui sont également en cours lorsqu'on parle du train de vie des élus?
Oui, tout à fait. Alors, on a parlé d'exaspération fiscale, on a une exaspération politique qui, à mon avis, est encore plus forte aujourd'hui que l'exaspération fiscale. C'est-à-dire une telle colère, une telle indignation à l'égard des élus qu'elle contribue à leur diabolisation, purement et simplement. Et effectivement, ça n'est pas du tout un hasard. Et ça, le grand débat le montre vraiment très très bien. Que ce soit les privilèges perçus des représentants, mais leur rôle même, le fait qu'on envisage très facilement l'abolition du Sénat, par exemple, de ce qui ressort, l'abolition du Sénat, l'abolition du CESE, voire même l'abolition des assemblées. Vous ne servez plus à rien parce que vous ne nous représentez plus. Et je pense que cette évocation de la corruption des élus, elle témoigne là d'une colère absolument majeure.
Merci Loïc Blondiaux, vous êtes professeur de sciences politiques à Paris 1. On vous doit notamment une démocratie des opinions aux presses de Sciences Po. Il y a un thème qui a été complètement absent du grand débat, c'est la culture. On en parle dans quelques instants en compagnie de l'ancien ministre de la Culture, Jacques Lang.